affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour. Merci de votre fidélité à l'écoute de Canal Académie. Alors que nous enregistrons notre émission, le président de la République se rend aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer notre émission à ce pays. Toutefois, pour ne pas rester dans l'écume de l'actualité, telle n'est pas bien sûr la vocation de Canal Académie, nous avons choisi un angle différent. Nous avons décidé de prendre un petit peu de recul, beaucoup de recul même, en consacrant une émission au protestantisme américain, à la religiosité américaine, à la façon dont les Américains envisagent et vivent même au présent le divin. À cette fin, nous avons l'honneur de recevoir l'historien Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Alain Besançon qui vient de publier une histoire du protestantisme américain sous-titrée « De Calvin à Billy Graham ». Nous avons voulu l'écouter, nous avons voulu lui poser des questions, car au-delà de l'intérêt historique évident de ces questions, il nous a semblé que son étude pouvait éclairer le présent et même l'avenir, et même au-delà nous présenter, en quelque sorte en creux, un miroir des propres questions qui peuvent se poser à la France et à l'Europe aujourd'hui, car je ne pense pas qu'Alain Besançon me contredira, car c'est l'une des thèses de ce livre, de son livre, il me semble, c'est que les racines du protestantisme américain se trouvent précisément en Europe. En l'étudiant donc, nous irons aussi à la rencontre de nous-mêmes. Alain Besançon, merci d'être parmi nous.
Bonjour, je suis ravi.
Ma première question, ce qui nous frappe lorsque nous évoquons les États-Unis aujourd'hui et à la lumière de votre livre, après l'avoir lu, c'est que l'on se retrouve face à ce qui nous apparaît comme contradiction. À la fois un pays extrêmement moderne, à la pointe de la modernité, et en même temps, dont les racines spirituelles et les mentalités s'enracinent dans l'histoire religieuse de l'ancienne Europe.
Non seulement les racines, mais enfin les racines ont poussé, et vous avez les États-Unis sont de la partie développée enfin de notre monde, sont probablement le pays qui a gardé une pratique religieuse la plus active, la plus diverse et souvent la plus fervente. Et c'est un pays où il y a plusieurs confessions. Il y en a au moins. Il y a les protestants, les catholiques, les juifs, hein. Et puis, les protestants se divisent en d'innombrables persuasions, comme aux États-Unis, ou denominations, comme ils disent. Mais il y a une unité du protestantisme américain quand même. Et fondamentalement, c'est une nation protestante.
Le terme de WASP reste encore d'actualité, alors.
Pas forcément WASP, hein, parce que. Oui. Oui, si vous voulez, parce que vous avez quand même, dans cette religiosité américaine protestante, vous avez quand même plusieurs courants. Il y a quand même le Sud, qui a développé, après la guerre de sécession, a développé, alors là, on peut dire que c'est des Noirs, mais c'est aussi des Noirs, hein, qui sont restés chrétiens, mais avec une religiosité particulière. Et puis, vous avez le Nord, qui est, lui, beaucoup plus mêlé, et dans lequel, peut-être, l'irreligiosité européenne commence à faire des progrès, plus qu'au Sud. Enfin, c'est à voir de près. Mais enfin, disons, c'est quand même un pays fondamentalement protestant, malgré la dispersion des confessions, la scissiparité permanente. Il y a une unité du protestantisme. Et cette unité vient des immigrants de la partie la plus fervente du protestantisme. Parce que le protestantisme est né d'une poussée de ferveur du 16e siècle, du 15e siècle déjà, où les gens n'étaient pas indigné de la mauvaise conduite de l'Église catholique, mais surtout du fait que l'Église catholique avait cessé plus ou moins d'être fervente et d'être chrétienne, et trouvait que les droits de Dieu n'étaient pas bien conservés à Rome. Et alors c'est à ce moment-là que vous avez eu cette poussée extraordinaire qui a abouti à la réforme luthérienne en Allemagne d'abord, puis à cette réforme calviniste, qui est à mon avis très différente, et dont sort l'Amérique. Parce que l'Amérique sort dans l'Angleterre. L'Angleterre a fait un compromis religieux qui a abouti à la formation de l'Église anglicane, dont il y a des rameaux en Amérique, mais ce ne sont vraiment pas les rameaux les plus fervents, c'est les rameaux les plus élevés socialement, mais parce qu'il est plus chic d'être anglican, enfin, ça a un côté, vieille Angleterre, et puis, disons, il y a beaucoup d'argent, les églises sont plus grandes, plus belles, etc. Mais le vrai fond américain, c'est un sort des puritains. Et les puritains, c'était ceux, justement, qui n'aimaient pas l'église anglicane, ne refusaient de se soumettre à certains aspects catholicisants de l'église anglicane. Et qui ont préféré prendre le bateau et s'exposer aux Indiens, à la faim, au naufrage, etc., plutôt que de supporter cette religion apaisée d'État anglaise qu'ils n'aimaient pas. Donc c'est les puritains qui sont arrivés aux États-Unis les premiers, en 1638, je crois, j'ai donné la date, non ? Quelque chose comme ça.
Hein ? Il faudrait que je feuillette votre livre.
J'ai déjà oublié la date exacte. Mais enfin, ils sont arrivés, donc. Parce que les Anglais les ont chassés, hein. Ils n'aimaient pas ces puritains, que ça se décomposait de façon extrêmement brutale. Et l'Angleterre avait refusé d'être puritaine, hein. Elle refusait d'être puritaine. Avec Charles Ier, c'était fini, hein. Bon. Et, donc. Ils sont partis, et là, ils ont passé le premier hiver, et pour remercier Dieu, ils ont fait le premier Thanksgiving, qui est, comme vous savez, la fête la plus populaire, la plus patriotique des États-Unis, à laquelle tout le monde participe. Hein. Et dont ils se souviennent du sens, et bien sûr, ils remercient Dieu de les avoir fait passer le premier hiver sans être mort de faim, parce que quand même, le premier hiver était toujours très difficile. On perdait 80% quelquefois du bateau.
Des arrivants. Ce que vous voulez nous dire par cet exemple, je pense, c'est que nous avons tendance aujourd'hui à oublier que les décisions, les actes, y compris les plus déterminants dans la vie des hommes, peuvent être motivés par autre chose que le simple profit ou l'intérêt ou le calcul économique.
Les États-Unis vivent sous le regard de Dieu. Ils le savent très bien, ils prient à toute occasion. Là, par exemple, on dit les grâces à table dans les familles de façon très, très régulière. On prie à la Maison-Blanche. Et on prie à la Maison-Blanche de façon très œcuménique. D'ailleurs, quand on prie silencieusement, mais tout le monde prie. Et on prie. C'est pas la minute de silence à la française qui est volontairement neutre et vide. C'est une prière à Dieu, n'est-ce pas? Et à laquelle tout le monde participe, les catholiques, les protestants, les juifs. Hein, ça, c'est.
Donc, avec un petit côté déiste, alors. Hein ?
Non, ils ne sont pas déistes, mais ils ont gardé, si vous voulez, de façon un peu basique, si vous voulez, le fond du christianisme. Bon, évidemment, c'est des cérémonies, par exemple, la cérémonie calviniste stricte a quelque chose d'un peu très austère, hein, un cantique, le très long sermon dans lequel on écoute la parole de Dieu, un cantique et on s'en va. Hein. Alors pour un catholique qui est habitué à la pompe de la liturgie, ou à l'orthodoxe bien davantage évidemment, ça paraît très, très pauvre. Mais non.
Mais eux précisément refusaient tout cela.
Mais au fond des cœurs, il y a une ardeur, une piété qu'on aurait bien tort de négliger, ou d'ignorer tout simplement. Et qui repose quand même sur quoi ? Ben sur un calvinisme basique, c'est-à-dire, ils croient en un Dieu créateur. Je parle de la plus misérable petite congrégation dans un coin du sud, hein, où auquel on ne sait rien. Voilà.
Vous allez nous exposer le credo minimal.
Ben, le credo minimal. Ben, le credo minimal n'est pas si mal, même par rapport à beaucoup de catholiques, je dirais. Ils croient à un Dieu créateur. Ils croient au péché originel. Ça, beaucoup, ils ont très fort un sens, ils ont un très fort sens du mal, du péché, etc., et du besoin de l'homme d'être sauvé. Ils croient au salut par Jésus-Christ. Ils croient au baptême, hein, au baptême comme entrée dans le peuple des saints. When the saints were coming in, hein, quand les saints. Maintenant, c'est un cantique protestant américain que tout le monde connaît, en France aussi. Mais c'est bien quand les saints arrivent, hein, et ça, c'est ceux qui faisaient partie de cette élite puritaine, n'est-ce pas, qui arrivait aux États-Unis, hein.
Mais qui étaient aussi, si je ne me trompe pas, censés être des élus.
Ah, alors voilà.
Là, on arrive sur le grand débat.
Là, on arrive vraiment au calvinisme, proprement dit, au calvinisme de la prédestination. La prédestination qui, contrairement à ce qu'on croit en Occident, de façon à mon avis erronée, commence par une sorte de remise à Dieu de son salut. Et au fond, quand on a compris que Dieu vous prédestinait et qu'on a compris que on avait foi dans cette prédestination, ben on est sauvé. C'est les autres qui sont prédestinés. C'est bien que le puritain se sent tranquille dans son salut. D'autant plus que dans la doctrine calviniste, n'est-ce pas, la grâce de Dieu qui prédestine le fidèle ne peut pas être renversé. Le fidèle est sauvé. Il est sauvé, il est certain de son salut. Ce qui n'est pas le cas des catholiques pour qui il faut aller, il faut persévérer.
C'est un cheminement.
C'est un cheminement, il faut aller jusqu'au bout et on peut tout perdre dans les derniers moments.
Hein, si bien ou, que, ou se rattraper dans les derniers moments.
Dans le monde calviniste, c'est fait. Hein, il y a les prédestinés avant leur naissance, avant même, et quelquefois même dans certains secteurs, avant même la création du monde. C'est ce qu'on appelle la double prédestination.
Oui, alors ça, je reconnais que je l'ai découvert en lisant votre livre.
Oui, mais, la double prédestination, supralapsaire. Bon, c'est un peu très atténué maintenant, mais il en reste des bouts quand même. Et cette idée qu'une fois qu'on est converti, et on est converti de façon, alors dans le monde baptiste, on est converti de façon très, très impressionnante par un baptême donné à l'âge adulte, dans lequel on vous plonge dans l'eau et on sort born again, hein, re-né, au sens très fort du terme. Eh bien, on est tranquillisé, l'angoisse religieuse est censée disparaître. Et il n'y a plus qu'à travailler, et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font.
Oui, car toutefois,
ils se mettent au boulot.
Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne suffit pas d'avoir été trempé dans l'eau à l'âge adulte et d'être born again, il faut ensuite démontrer qu'on a accompli réellement une vie nouvelle.
C'est le fruit de la grâce. C'est le fruit de la grâce. Alors si on ne fait pas ça, c'est qu'on s'est trompé, c'est qu'on est prédestiné au mal. Mais en principe, on est prédestiné. Ceux qui sont pieux se sentent tranquilles, ils se mettent au boulot.
Ce qui est curieux avec un regard d'Européen, de Français ou de catholique, on pourrait avoir le sentiment que cette affaire de prédestination peut mener à une forme de fatalisme.
Ah, ça peut, mais enfin... Ça, mais ils ont pris des précautions contre ça quand même. Non,
Il y a eu des débats aussi.
Ah oui, il y a eu des grands débats, des grandes doctrines, etc. Et d'ailleurs, la prédestination a été adoucie. Vous aviez eu au XVIIe siècle, en Hollande, un combat à Utrecht. Hein.
Leiden, non. Non, c'est un professeur de Leiden, mais.
C'était Utrecht, il me semble, peu importe. Oui. Enfin bon, un combat entre deux professeurs d'université, l'un qui s'appelait Gomard, l'autre qui s'appelait Arminius. Et Gomard tenait à la double prédestination, au bien et au mal, et avant
même. L'idée était jetée par avance.
Elle était jetée par avance. Et Arminius disait, faut pas exagérer. Et disons que les puritains sont arrivés gomariens aux États-Unis. Mais ils sont devenus arminiens très vite, si vous voulez.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lors de ce débat, si j'ai bien compris, Gomard a gagné dans les institutions protestantes
oui.
de l'époque.
Oui.
Mais en réalité, dans les profondeurs de la société, il avait déjà perdu.
Et alors, vous aviez quand même les épiscopaliens qui n'étaient pas arminiens, enfin, qui étaient arminiens, je veux dire, qui n'étaient pas gomaristes. Donc, si vous voulez, vous avez un adoucissement de la sévérité calvinienne, conformément à... à la vie, tout simplement, et au succès des Américains, quoi, qui voyaient qu'ils s'enrichissaient, que ça allait bien, que tout ça. Bon, alors qu'ils trouvaient que la prédestination. Alors évidemment, ça donnait une certaine sévérité au code pénal américain, parce que si Dieu n'a pas sauvé un homme.
Pourquoi la société le ferait ?
Pourquoi la société le ferait et pourquoi le tribunal le ferait ? Hein, si Dieu a été sévère avec lui en le jetant par avance dans les flammes éternelles, bah pourquoi est-ce qu'on ne le pendrait pas ?
C'est l'aspect. Pardonnez-moi, je parle avec mon cœur et même avec ma sensibilité qui n'est pas celle-là. Il y a une sorte de tension paradoxale dans ce protestantisme entre l'idée très forte de rédemption.
Oui.
Et pourtant, dans les principes, on est dans la négation même de la possibilité de se sauver si on ne fait pas partie des élus. Ça fait un cocktail assez paradoxal.
Il y a cette idée très forte, n'est-ce pas, que dans la littérature américaine, pensez à un type qui n'existe pas dans la littérature européenne, c'est-à-dire du mal chez l'enfant. Pensez à cette nouvelle de William James, excusez-moi, qui s'appelle The Turn of the Screw, le tour des coups. Hein. Vous voyez quand même deux enfants qui sont prédestinés au mal. Deux enfants. Hein. Et malgré tous les soins et la prière de leur gouvernante, et avec derrière, ils sont des génies du mal. C'est un livre extrêmement impressionnant, qui est un livre très beau d'ailleurs. À mon avis, c'est ce que Henry James a fait de plus beau, de loin. Mais c'est quand même un texte terrifiant. Et vous avez dans Faulkner, vous avez dans
oui, s'il y a des sauvés, il y a forcément de la chute.
Oui, et comment ça s'appelle la fatalité de Hawthorne, hein, l'histoire du pasteur avec comment ça s'appelle ce livre très beau d'ailleurs. Ça s'appelle un pasteur qui a fait une faute sexuelle évidemment parce que beaucoup de choses tournent autour du sexe et alors. Finalement, il a un A marqué par un texte un peu fantastique donné par Dieu, la lettre écarlate. Hein, c'est le titre du livre, la lettre écarlate. Alors, cette lettre, c'est un A pour adultère. Hein, et on voit bien, si vous voulez, cette marque extrêmement forte, ce sens du mal que les puritains ont apporté en Amérique et dont ils se débarrassent. Encore une fois, par l'acte de foi salvateur et une vie de travail, de bonnes actions, si vous voulez. Le puritain n'a pas le temps d'être angoissé, il a du travail. Parce que voilà, c'est la différence entre Luther et Calvin, mais là j'entre peut-être dans des notions théologiques un peu étrangères à ceux qui nous écoutent. Chez Luther, l'acte de foi suffit. Et chez Calvin, il faut ce qu'il appelle la sanctification. Il y a la justification, nous sommes d'accord avec Luther, il est d'accord avec Luther. La justification, c'est Dieu qui rend juste, qui prend les péchés sur lui de façon de l'extérieur. C'est Dieu qui prend les péchés, le Jésus-Christ qui prend les péchés. Mais après, ça suffit pour Calvin. Il confond justification et sanctification. Pour Calvin, pour Luther, j'ai dit, il confond. Et pour Calvin, au contraire, les choses sont séparées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est justifié, il reste à sanctifier le monde autour de soi. Et sanctifier, c'est-à-dire
préparer la preuve socialement.
Oui, et préparer un monde de bien, préparer un monde sans péché, préparer un monde où soi-même soit sans péché, soit pur, et autour de soi, faire régner des mœurs bonnes, auxquelles les Américains tiennent beaucoup, ils tiennent à leur religion. Ils tiennent à leur religion parce qu'ils pensent que leur morale et la bonne tenue morale du pays est liée à cette religion. Et au fond, c'est ce que nous avons, post-catholique, nous avons un peu de mal à comprendre.
Oui, et combien même nous serions catholiques, au sein de la religion catholique, les débats plus intellectuels ou autour des dogmes, de la foi, ont beaucoup oui. de place, alors qu'on a le sentiment qu'aux États-Unis, la preuve sociale, comme vous venez, il me semble, de l'exprimer pour les calvinistes, la preuve sociale compte tout autant.
Bah, c'est un pays davantage. Empirique, hein, c'est un pays empirique, c'est un pays pragmatique. Hein. C'est un monsieur qui se conduit bien, ben c'est un monsieur qui ne boit pas, qui ne se drogue pas, qui ne trompe pas sa femme, ne trompe pas sa maîtresse. Enfin, je ne sais pas. Il y a comme ça un certain nombre de tests, si vous voulez, auxquels on tient beaucoup. Le catholique, lui, il s'est effectivement une religion plus intellectuelle. Pourquoi ? Pas parce que, il y a tout cet immense édifice dogmatique qui a été construit dès le début de la religion chrétienne et qui a, en plus, c'est chargé de toute la philosophie antique, parce que quand même les stoïciens, les épicuriens, les platoniciens, tout ça s'est entré dans l'Église. Ça a formé une espèce d'immense cathédrale religieuse et dogmatique dont l'élan protestant a fait lisière très, très vite. Et dans un pays comme l'Angleterre, qui est un pays divisé, parce que quand même les Anglais... C'est l'État qui a formé la religion en Angleterre. C'est pas un mouvement d'en bas, hein. C'est un mouvement d'État. Eh bien, l'État voulait l'unité du pays. Et l'unité du pays, ça consistait à donner aux gens un prayer book, c'est-à-dire un livre de prière, qui est très beau d'ailleurs, magnifique. Il était fait par un liturgiste de génie qui s'appelait Cranmer et qui a composé le prayer book dans une langue, la langue liturgique anglaise est toute beauté. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose. C'est des prières, c'est des formules. Il n'y a pas de dogme là-dedans. Alors vous avez les 38 articles de l'Église anglicane, 36, 38, peu importe, qui sont en petits caractères à la fin du prayer book, auquel est tenu de croire le pasteur, le clergyman, mais pas le fidèle. Le fidèle, il va à l'office, il bénéficie de la liturgie anglicane, qui est très belle, beaucoup plus complexe, beaucoup plus somptueuse que la liturgie, ce qui reste de la liturgie dans le puritanisme. Bon, le monde anglais tend à laisser de côté le dogme. Et les 36 articles ou 38 articles, j'ai oublié, de religion, qui sont à la fin, peuvent être lus un peu comme on veut. Ils peuvent être lus à l'endroit, à l'envers, de côté, etc. Si bien que, donc, l'État anglais cherchait l'unité du peuple anglais, quoi. Eh bien, ça a été hérité par les Américains. Ils n'aiment pas les définitions trop précises. Ils n'aiment pas le, si vous voulez, tout ce bagage que le catholique est censé apprendre avec enfant et toute cette discipline des sacrements, puisqu'il ne reste plus que deux sacrements, hein, le baptême et la Sainte Cène. Et la Sainte Cène est beaucoup moins réaliste que que l'Eucharistie catholique. Donc, si vous voulez, le chrétien se reconnaît à ses bonnes mœurs, à sa piété, mais pas à sa fidélité à un corps dogmatique.
Sans faire de mauvaises plaisanteries, il n'y aurait pas un petit côté petit bourgeois dans cette façon d'aborder la religion et la foi. C'est un côté... Lorsqu'on découvre les preuves de la conversion véritable... Je trouve que par moment, elle relève du voisinage. Non.
Ben, c'est-à-dire
on a l'impression d'être sous l'œil de ses voisins, si vous voulez.
Ah oui, oui, oui. Et oui, parce que ces sociétés, ces petites communautés puritaines, tout le monde se surveillait les uns les autres. Il n'y avait peut-être pas un clergé aussi puissant et aussi autoritaire que le clergé catholique. Mais... parce que tout le monde était considéré comme prêtre, comme prêtre possible. Hein. Tout le monde pouvait se dire « I have the call, j'ai la vocation » et commencer à prêcher. Il y en a eu beaucoup comme ça, des prédicateurs.
Y compris héroïques d'ailleurs.
Qui ?
Y compris de façon héroïque, puisqu'il pouvait partir.
Il parlait dans l'Ouest, voilà, Et alors, il leur arrivait quelquefois d'y laisser leur scalp. C'était surtout par des élans du cœur, des élans de piété, des élans prophétiques. N'oubliez pas qu'ils lisaient l'Ancien Testament beaucoup plus, au même titre que le Nouveau, beaucoup plus que les catholiques, pour qui l'Ancien Testament paraît souvent un peu étrange. Ils ont tort d'ailleurs, parce que l'Église catholique a toujours dit que les deux étaient à lire ensemble et s'expliquaient l'un par l'autre. Mais enfin, c'est comme ça. Ils lisent beaucoup plus le Nouveau que l'Ancien. Alors que les protestants lisaient dès le début. Ils ont lu l'Ancien Testament. Et pourquoi ?
Et pour preuve, ils choisissent souvent des prénoms issus de l'Ancien Testament.
Ah bah oui, bien sûr. Mais pourquoi ils lisaient l'Ancien Testament beaucoup ? Pas parce qu'ils étaient en guerre. Quand même, les guerres de religion, ça a été des guerres terribles. Quand même, en France, vous avez eu 40 ans de guerre.
Hein, et dans toute l'Europe.
Et la guerre de 30 ans, c'est quand même inimaginable, de destruction, etc. Et les guerres, il fallait les justifier par l'Écriture. Et vous pouvez beaucoup plus facilement la justifier par l'Ancien Testament que par le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des massacres, il y a des exterminations.
C'est beaucoup plus viril.
Mais oui, si vous voulez, quand Cromwell est arrivé en Irlande, il a considéré que les Irlandais, c'était des Amalécites ou des Cananéens, qu'il avait le droit de les exterminer. Voilà. Les catholiques.
Bien en peine de trouver des justifications
dans le
Nouveau
Testament. Les catholiques ont fait des massacres aussi, ça, c'est pas ça la question. Mais ils ne cherchaient pas à les justifier par l'attitude de Josué en Canaan.
Plus compliqué.
Plus compliqué, oui.
Alors, précisément, ça nous amène à ce trait particulier quand même des États-Unis, cette tendance à se considérer aussi, ce caractère messianique, à se considérer un petit peu comme le nouveau peuple élu, appelé à accomplir une destinée qu'ils disent manifeste.
Ça s'appelle The Manifest Destiny of the American People. Hein, et ça, vous l'avez d'un bout à l'autre de l'histoire américaine. C'est quand même Eisenhower qui a fait mettre In God We Trust sur les billets d'un dollar, In God We Trust. Ça n'y était pas avant. Avant, c'était In E Pluribus Unum, c'est-à-dire à partir de beaucoup. La Constitution américaine a été faite par des gens qui n'étaient pas tellement pieux, et même des déistes, influencés par la France des Lumières, s'en foutaient un peu. Ou alors ils étaient unitariens, enfin des protestants libéraux, etc. Mais pas le peuple américain. Le peuple américain était beaucoup plus pieux que ses constituants. La constitution américaine est une constitution laïque. C'est même la première constitution laïque du monde. Elle ne se met pas sous la protection de Dieu. L'autorité, c'est « we, the people of America ». Hein, oui, the people of America. Nous, le peuple américain, nous décidons. Hein, c'est pas Dieu, etc. Non. D'autres, ça a été controversé. Parmi les constituants, il y en avait qui voulaient qu'on mette, qu'on fasse référence à Dieu. Et quand les sudistes se sont séparés au moment vers 1860, hein, du Nord, ils ont fait mettre Dieu dans la Constitution. Hein. Donc oui, il y avait toujours une tension entre l'État qui est théoriquement laïque et puis les communautés qui sont très pieuses. Et entre les deux, vous avez les États. Hein, et les comtés, et enfin, toute la décentralisation américaine. Et ça a été dur pour les juifs et les catholiques de se faire reconnaître comme des citoyens américains. Les États ont refusé de leur donner des postes jusque vers 1900, même plus tard. Hein. Quant aux nègres, les noirs, ça a été une grosse histoire aussi, parce que les noirs, ils faisaient partie des communautés du Sud. Hein, il y avait les maîtres et les esclaves. Les noirs se tenaient au fond. Ils n'avaient pas le droit de prêcher. Ils n'avaient pas le droit de donner les sacrements. Mais ils étaient chrétiens quand même. Mais quand il y a eu l'émancipation des noirs, il n'était pas question pour les maîtres de rester dans les mêmes églises que les noirs. Donc les noirs ont eu à construire leurs propres églises. Et c'est ce qu'on appelle, les Black Churches. Hein. Aux États-Unis, qui sont chrétiennes et pieuses à leur façon, faut pas croire. Mais enfin, avec des façons d'être qui sont différentes. C'est une religion très, très bariolée, la religion américaine.
Ah ben, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis elle prend mille reflets, même sans prendre la question ethnique. Cette variété est infinie.
Il y a eu le tsunami catholique, si vous voulez. Les catholiques, ils ont commencé tout petits aux États-Unis. Ils étaient vraiment mal vus.
Avant les Irlandais, vous voulez dire.
Alors, vous avez l'arrivée des Irlandais, des Allemands d'abord, des Bavarois, des autres, des Bavarois, des Rhénans. Puis alors, le tsunami irlandais. Puis après ça, vous avez les Italiens. Les Polonais, et puis les Latinos maintenant, qui sont un groupe extrêmement nombreux. Alors ça fait à peu près un Américain sur 4 ou 5.
Hein ? Oui, ce qui est considérable.
Un Américain sur 4 ou 5. On ne peut plus les pousser dans les ténèbres extérieures, comme on le faisait autrefois. Et je remarquais que l'an dernier, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais l'an dernier, en 2012, une institution absolument sacrée, la plus sacrée des États-Unis, c'est-à-dire la Cour suprême. La Cour suprême, il n'y avait pas un protestant dedans.
Oui.
C'était réparti à l'égalité, à peu près, entre les juifs et les catholiques. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Ça montre les juifs à quelle vitesse ils sont entrés dans le système américain, en collant au WASP d'ailleurs. Les Italiens ont fait pareil. Vous avez beaucoup d'Italiens. Le maire de New York, il a un nom italien ou un nom espagnol, je ne sais pas.
Il s'appelait Giuliani, en tout cas.
Bah oui, Giuliani, mais il était à moitié juif en même temps. Enfin,
il était New Yorkais.
Il était New Yorkais, voilà. À New York, c'est toujours un peu italien, italo-juif. Hein. Mais enfin, bon, c'est très bien. Mais c'est quand même, ils sont quand même maires de New York. Et puis vous avez beaucoup de mairies noires. Alors là, c'est encore autre chose, ça. Washington, c'est un maire noir depuis très longtemps. Chicago aussi, non, c'était pas maintenant Chicago. Chicago, c'est variable. Oui.
Comment tout cela tient-il ensemble? Car
vous avez mêlé le patriotisme américain et cette idée que l'Amérique, comme disait, je crois. Ben Eisenhower aussi, Dieu a besoin de l'Amérique.
C'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que même parmi les personnes issues d'autres confessions, il y a l'intégration...
Une concurrence pour être plus américain que les autres.
Oui, et l'adoption de ce principe de destinée manifeste, voilà, y compris lorsqu'on est catholique ou juif ou autre, s'intègre à cette idée-là.
The city upon a hill, n'est-ce pas ? C'est l'image biblique de la cité sur la colline, n'est-ce pas, qui est sur la montagne. Hein, qui est pur. Oui. Donc vous avez un patriotisme américain qui se mêle de façon intime à la religion américaine. Mais à la religion américaine, oui, le drapeau américain n'est jamais loin.
Une forme de protestantisation des autres.
Et avec une protestantisation latente d'une partie des juifs qui sont quand même. Enfin, ça change depuis une quarantaine d'années à cause d'Israël, mais enfin, les juifs, ils étaient quand même en majorité libéraux. Et le libéralisme juif, c'est une branche presque protestante dans ses allures et dans ses façons d'être. Et puis, vous avez chez les catholiques également une tension vers le congrégationalisme, c'est-à-dire l'autonomie de chaque paroisse. Bon, ben, on verra comment ça va tourner, tout ça. Il me semble qu'il y a quand même un déclin lent de style européen de la religion aux États-Unis, à partir des universités, à partir des milieux cultivés. Là.
Mais ça, c'était déjà le cas au départ, comme vous le disiez. Les gens qui rédigeaient la Constitution n'étaient pas des gens particulièrement pieux.
Non, pas du tout. Madison était un protestant libéral, mais Jefferson était un déiste voltairien. C'était un déiste voltairien, Jefferson. Et puis, bon, les universités, bah, écoutez, moi j'étais dans des universités comme Columbia, ça c'est New York. Moi, je ne voyais pas de trace de la religion à Columbia. J'ai été à Princeton, qui était la grande université presbytérienne, calviniste, l'université du président Wilson, où il y a une gigantesque église au cœur de l'université. Sur le modèle de la Notre-Dame de Cléry, en France, au bord de la Loire. Hein. Mais superbe. J'ai été à Stanford. Eh bien, j'ai pas vu beaucoup de religions à Princeton, et j'en ai vu encore moins à Stanford. Ou pourtant, au cœur de l'université, dans une université de grand luxe, vous avez interdenominational church, hein, c'est-à-dire qui marche pour tout, hein, catholiques, protestants, juifs, etc.
Oui, c'est ce qu'on appelle les lieux de prière qu'on peut trouver dans certains aéroports. Exactement. Ou dans les hôpitaux en France.
Exactement, ce sont des interdénominationales, on ne peut pas dire autrement, hein, et dans lesquels chacun amène son petit matériel, enfin, sa façon de... sa Bible, ses instruments liturgiques. Voilà. Alors, est-ce que tout ça se refroidit ? C'est possible, c'est possible.
Moi, ce que j'ai constaté, si vous me permettez cette remarque personnelle, parce que j'ai moi-même été dans une université américaine, à Georgetown, ça ressemble...
Ah bah, Georgetown, c'est catholique, Georgetown, d'origine,
oui, mais,
c'était jésuite.
Mais parmi les étudiants qui étaient là, qui étaient de toute confession, effectivement, l'immense majorité n'était pas pieuse, mais la totalité avait une... inscrit dans leur mentalité, leur façon de voir le monde, le sentiment extrêmement vif que les États-Unis étaient responsables du salut du monde.
Oui.
Cela restait ancré de façon...
C'est la nation messianique. C'est la nation messianique, d'ailleurs, avec un très grand effort missionnaire, quand même. Un très grand effort missionnaire qui date des débuts des États-Unis, quand même. Il y avait un président des États-Unis qui venait de conquérir les Philippines au moment de la guerre avec l'Espagne. Il disait, ben, qu'est-ce qu'on va en faire des Philippines ? On va la convertir. Il avait oublié de dire qu'elle était déjà convertie par les catholiques, par les Espagnols depuis 3 siècles, mais ça comptait pas. Oui. Mais maintenant, il n'irait plus comme ça.
Oui, c'est l'autre point qu'on oublie assez souvent, c'est que autant les relations entre protestants et catholiques s'étaient quand même apaisées en Europe depuis un certain temps. Il avait fallu bien apprendre, oui, à vivre ensemble. Mais lorsqu'on lit les prédications... que vous relatez dans votre ouvrage, et la façon dont le catholicisme est vu aux États-Unis jusque très tardivement, même dans les années 50, si je ne me trompe pas, l'homme que vous citez, Billy Graham, met le catholicisme à l'égal des périls que pourrait être le communisme ou le nazisme.
Absolument.
Ou le satanisme.
Mais à la fin de sa vie, fini. Mais alors, il y a un truc, moi, qui m'a quand même... stupéfait et même un peu consterné. Vous vous souvenez qu'au moment de l'élection de Kennedy, c'était il y a une cinquantaine d'années, c'était quand même le premier président catholique. Et on n'aimait pas ça, hein. Il y a eu des frottements, il y a eu des inquiétudes, etc. Eh bien, l'an dernier, la moitié des Américains a voté pour un mormon pratiquant, sérieux, croyant, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que le mormonisme ? Ben, c'est une religion non chrétienne du tout. Hein, ça n'a rien. Ils essayent de se faire passer pour chrétiens, mais ce n'est pas vrai. Ils ne le sont pas. je connais un peu les mormons. J'ai lu des choses sur les mormons. J'ai un traducteur en anglais qui est un évêque mormon. Je sais bien ce que c'est que les mormons. Je n'ai rien contre les mormons, mais ce ne sont pas des chrétiens. C'est tout à fait autre chose. Et que la moitié des chrétiens s'en sont fichus, ont décidé que ce ne serait pas une issue, un enjeu, le mormonisme. Et ils ont voté pour un mormon qui est un membre important de cette église. C'est drôle quand même.
Alors, oui, c'est étrange, mais est-ce que ce n'est pas une conséquence justement du fait que le fait de mener une vie bien réglée, finalement, est le signe le plus important ?
Parce que les mormons se présentent comme des super-américains. Ils sont chasses, ils ne boivent pas, ils ne droguent pas, ils sont en parfaite santé, ils font du sport, ils travaillent comme des brutes, ils deviennent extrêmement riches. Donc ils ont des tas de vertus américaines.
C'est ça.
Ils ont des tas de vertus américaines et l'américain aurait plus de
une sorte de pragmatisme, finalement.
Ben oui,
si le signe d'être élu, c'est de ne pas boire, ne pas fumer, ne pas tromper son épouse, bon là c'est un peu particulier parce que je crois qu'ils sont polygames, mais okay, ils peuvent l'être.
Ils ont envie de l'être, comme tout le monde.
Mais c'est permis. Dans ce cas-là, finalement, peu importe le dogme et peu importe l'église que l'on fréquente.
Oui, et ça, pour un catholique qui est habitué quand même à des credos, à des confessions de foi, ça paraît tout à fait étrange.
Ah ben pour un catholique, il vaut mieux un prince catholique qui a des maîtresses, il vaut mieux un roi de France avec des pompadours et des maintenons,
oui,
Mais étant mais prince catholique, plutôt que qu'un austère qui ne soit pas de sa foi.
Voilà, oui. Non, bien sûr. Ce qui compte pour, la marque du catholique, c'est, elle devrait être de la recherche de la vérité, parce que finalement, puisque c'est une religion intellectuelle, bah, qu'elle le soit. Hein. Et donc, il faut réussir à penser sa religion. Et ça, c'est long, puisqu'elle repose sur des mystères qui sont des lumières obscures, hein, mais sur lesquelles l'intelligence doit s'exercer. Si elle ne le fait pas, bah, il reste la vie pieuse, il reste les sacrements, l'assistance aux offices, etc. Mais c'est ça qui fait le catholicisme. Mais boire, ne pas boire... Bon, c'est mieux de ne pas boire.
Mais c'est pas décisif. Nous ne sommes pas voués à l'enfer, si c'est le cas.
Et l'enfer existe, mais enfin, il est de moins en moins habité.
Ça.
Mais pour les puritains, pour la religion, dans la prédication même de Billy Graham, l'enfer existait, il était proche.
Et nous parlons bien de prédication qui avait lieu il y a
Billy Graham, il est presque mon contemporain, à 10 ans près. Hein,
On rassemblait des foules en leur expliquant qu'ils se comportaient mal.
Qu'ils se comportaient mal et ils demandaient un engagement. Alors les gens allaient en avant comme ça. C'est drôle parce que un grand théologien protestant qui s'appelait Karl Barth, qui était un homme de génie d'ailleurs, enfin un très grand monsieur, qui était à Bâle. Billy Graham lui a demandé est-ce que je peux faire un meeting,
une prédiction,
un meeting en plein air. Alors Karl Barth, qui est un homme extrêmement sophistiqué et qui avait finalement peu de considération pour la théologie de Billy Graham, lui a dit oui, faites si vous voulez, mais vous n'aurez personne. Mais il n'est pas vrai. Il y a une énorme foule qui est arrivée pour entendre Billy Graham et des centaines de gens ont dit on s'est avancé, on a pris l'engagement de la bonne vie, de la vie comme il faut.
Ben, voilà. C'était une sorte de grand réveil version baloise.
Un grand réveil balois dans cette ville extrêmement policée, extrêmement riche.
Et si je ne me trompe pas, dans les années 80,
Oui, 70-80, j'en sais rien, oui. Oui, il fallait que Billy Graham soit suffisamment célèbre. Mais il l'était déjà, hein. Il l'était déjà. L'apogée de Billy Graham, c'est... les présidents américains écoutaient Billy Graham, Clinton...
Et pas seulement les Bush, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Clinton était pieux. Un qui croyait pas beaucoup, c'était Reagan, mais il faisait semblant de croire. Mais Clinton était réellement pieux, hein. Il a fait quelques petits écarts, mais... Il était pieux quand même. Hein. Et Bush aussi. Billy Graham l'a guéri de son alcoolisme. Voilà. Charisme de Graham. Comme ça.
Toutes choses qui doivent paraître extrêmement étranges à des oreilles françaises. Imaginez qu'un prédicateur tel que Billy Graham reçu à l'Élysée.
Oui, et faisant les gros yeux à Hollande. C'est difficile à imaginer.
Oui. Le fossé se découvre d'ailleurs lorsqu'on se souvient que vous disiez Bill Clinton a fauté, mais Bill Clinton ensuite est venu pleurer à chaudes larmes.
À chaudes larmes, s'est confessé devant tout le monde. L'Amérique est
laïque.
Mais
on a souvent tendance à penser que c'est de la communication.
Mais non, pas du tout. Enfin, un peu. Mais enfin, disons, l'Amérique est laïque. Fondamentalement, sa constitution est laïque, comme je l'ai dit. Mais elle n'est pas laïciste. Alors que la France... n'est pas seulement laïque, elle est laïciste. C'est-à-dire qu'il y a une haine du christianisme quand même en France, très très forte. En Belgique aussi, puisque vous connaissez, ça n'a pas à dire, ça n'a pas rendu service aux Wallons.
Certainement. Mais c'est cette persistance de la religiosité, malgré cette séparation, malgré tout, entre le pouvoir temporel et spirituel, c'est une des marques de fabrique, parce qu'il y a un refus, justement, chez les calvinistes de mettre le salut dans des princes qui soient de leur religion.
Absolument. D'ailleurs, le ministre, le prince, n'entre pas dans le synode, n'est-ce pas ? Il y a une vraie séparation de l'Église et de l'État.
À la différence des luthériens, si j'ai bien compris.
Oui, parce que Luther considérait que puisque l'Allemagne allait se convertir complètement et entrer dans la religion évangélique, elle n'avait qu'à conserver ses autorités et le prince était l'évêque naturel, comme il disait. Mais pas pour les calvinistes. C'est dans ça que les calvinistes préparent la démocratie, quand même. Il y a quand même ce sens très fort de la liberté de conscience dans le calvinisme, qui est une belle chose quand même. Moi, j'admire beaucoup Calvin. D'abord, je suis un immense écrivain. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est...
Je ne le voyais pas comme un écrivain.
Il provoque
une sorte d'effroi.
Il n'a pas l'air marrant avec sa petite barbe. Mais enfin, il n'est pas si méchant. Enfin, du moins, les protestants disent qu'il n'était pas si méchant. On le dit. Mais enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un grand esprit et un grand écrivain. Il est contemporain de Rabelais, quand même. L'institution de la religion chrétienne a été dédicacée à François Ier, donc sans autant de Rabelais. Mais si vous comparez Rabelais, qui a un style merveilleux, mais qui a un style assez médiéval, et Calvin, qui a un style à la Descartes, c'est déjà le français moderne, avec des archaïsmes, si vous voulez. Mais c'est d'une rigueur, c'est marmoréen, le style de Calvin. Ah non, c'est un... Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a deux Français qui ont changé le cours du monde. C'est Calvin et Rousseau. Pas pour le meilleur. Mais...
J'en viens à regretter que vous ne citiez pas Rabelais.
Mais non, malheureusement pas. Voilà. C'est Calvin et Rousseau. C'est-à-dire que le monde allait doucement, mais ils ont vraiment donné un coup de barre. Et quand même, Calvin, c'est la Hollande, et c'est le capitalisme, c'est l'Angleterre quand même dans une partie, et c'est l'Amérique, c'est pas rien quand même. Parce que l'Amérique n'est pas... La différence entre l'Amérique et religieuse et l'Angleterre, c'est justement l'impact puritain et calviniste, qui n'a jamais été tellement majoritaire que ça, mais c'est eux qui donnent le ton, c'est vraiment la matrice religieuse.
Alors... J'extrapole énormément, mais c'est une façon de poser la question. On constate à la lecture de votre livre que certes, il y a quand même une forme d'érosion sur cette terre d'élection du calvinisme que sont les États-Unis, mais qu'en revanche, l'élan missionnaire rencontre de grands succès à l'extérieur, notamment en Amérique du Sud. Est-ce qu'on ne peut pas dresser un parallèle finalement avec l'histoire du catholicisme où le centre historique... se déchristianise petit à petit, se vide de sa substance, alors même qu'il rencontre un certain succès sur d'autres continents.
Oui, j'y ai pas pensé, mais vous avez raison. On peut même englober dans cette évolution l'Église anglicane, qui est une Église noire maintenant. Parce que l'Église anglicane, elle est encore dominante en Angleterre, mais personne n'y croit, personne n'y va plus, ça se décompose. Mais par contre, alors la mission anglaise en Afrique est très vivante et ils maintiennent l'anglicanisme, que tu as quasi catholicisme, je crois, dans ces pays-là. Enfin, j'en sais rien, il y a quand même toujours des distances et des haines.
Vous parlez au début de votre livre, d'ailleurs, de montrer que finalement, les protestants ont une grande conscience des frontières qui persistent entre le protestantisme et le catholicisme. Et vous parlez à propos de l'Église catholique des deux défis qu'elle doit relever, d'une part l'islam et ses nouvelles formes, et d'autre part ce protestantisme évangélique extrêmement missionnaire.
Extrêmement missionnaire et qui est un chrétien. Alors, déjà, le protestantisme est un peu basique par rapport au catholicisme, puisqu'il se débarrasse d'une grande partie de la dogmatique. Mais alors, l'évangélisme, alors là, ça devient ultra basique. Les évangéliques brésiliens. Etc. Moi, j'ai été faire un tour dans les églises protestantes de Paris. Et j'ai trouvé dans une église près de chez moi, j'ai trouvé un temple calviniste tout à fait strict, mais il n'y avait personne. Mais le pasteur faisait quand même son sermon, qui est un long sermon, qui est une vraie conférence, il le faisait très, très sérieusement. J'étais dans une église luthérienne, aussi de mon quartier. Là, j'ai trouvé beaucoup de piété, beaucoup de chaleur, et j'ai eu une excellente impression. Puis j'ai déjà été dans une église du 12e arrondissement, qui est dans un vaste cinéma devenu un temple évangélique. Alors c'était un monde noir, des gens très bien, très pieux, très extrêmement polis, extrêmement. J'étais le seul blanc, pas gêné du tout. Mais alors, par contre, alors les prédicateurs, c'était affolant. Hein. C'était affolant de démagogie, de. J'ai pas eu bonne impression.
Mais ça fonctionne.
Hein?
Mais ça fonctionne.
Ça chante, ça fonctionne, c'est pieux, c'était bourré.
Et sur de nombreux et en nombreux continents.
Et alors attention maintenant, le calvinisme et le luthérien, enfin les vieilles luthérianisme en Alsace et le calvinisme dans le reste, c'est pas du tout en bonne forme. Mais ce qui se développe, c'est l'évangélisme. C'est maintenant la moitié des protestants français.
Comment peut-on le définir alors comme Baptiste, une forme de populisme religieux, de...
Ah, écoute, j'en sais pas assez. Je sais pas assez. Je sais pas fréquenter suffisamment. J'ai un ami qui est baptiste et qui a fait de très bons livres là-dessus. Il s'appelle Sébastien Fatt. Je l'ai beaucoup utilisé. Il se définit lui-même comme chrétien. Enfin, il est baptiste, théoriquement. Bon, ben, c'est une branche, disons, comment dirais-je, de protestantisme extrême. Hein. Il n'y a plus de clergé,
Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu au protestantisme des débuts aux États-Unis lorsque
tel
se proclamait pasteur
Parce qu'elle avait quand même une organisation synodale presbytérienne qui a tenu le coup pendant longtemps. Qui a commencé à s'effriter après l'indépendance. Parce que quand même, les États-Unis ont longtemps vécu sous tutelle anglaise, hein, jusqu'en 1788. Hein. Et les États-Unis existaient. C'était déjà une nation très riche, très instruite. Hein, 4 millions d'habitants, c'était pas rien, c'était grand. C'était grand.
Et si on devait terminer par un petit peu de prospective, quel avenir voyez-vous pour le protestantisme américain ? À la fois dans ces terres domestiques et la surface du globe.
Ben, j'en sais rien. C'est entre les mains de Dieu quand même. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe de ces choses. Et
il ne vous contredirait pas.
Il ne me contredira pas, mais il ne me met pas dans sa confidence. Je ne sais pas. Il y a quelques courbes dont on voit qu'elles sont dans une direction plutôt descendante, quand même. Par exemple, la pratique religieuse qui était, dans ma jeunesse, qui touchait 80% des Américains le dimanche, a beaucoup descendu. Ils en sont à 40%, quelque chose comme ça. Mais maintenant, la France est à 5%. Alors, il y a de la marge encore.
Oui, et comme vous le soulignez, je crois, dans votre ouvrage, en France, nous avons 5% de pratiquants, mais un substrat beaucoup plus hostile autour de ces 5%, alors qu'aux États-Unis,
combien personne,
même il y a peu de pratiquants, il n'y a pas d'hostilité.
Non, je me souviens avoir fait un voyage aux États-Unis avec un prêtre catholique. C'était comme ça, on a fait un petit voyage enfin, d'un endroit à l'autre, pas immense rien. Mais alors, la façon dont cet homme qui avait le col anglais, enfin, le col romain plus exactement, le clergyman, quoi, l'homme, et la façon dont les Américains le traitaient, c'était stupéfiant, le pompiste, tout ça, le drugstore, enfin, c'était incroyable, ça m'a absolument stupéfait.
Tellement il y avait de la préscience.
Ah, le respect. Et attention, c'était un prêtre catholique. Je ne sais pas si ça se voyait, mais c'était pour eux, c'était le clergyman, l'homme de Dieu, le révérend.
Qui, par sa fonction même, méritait respect.
Ah, mais un respect qui m'a stupéfait. Qui m'a stupéfait dans le peuple, là, j'entends, le pompiste, le drugstore, n'importe qui, quoi. Dans le contrôleur de n'importe quoi. Enfin, c'était stupéfiant. On n'est pas habitué à ça en France. Le cardinal archevêque de Paris ne serait certainement pas traité s'il se promenait en France dans les mêmes conditions. étonnant.
Et puisque au début de notre émission, nous avions évoqué la possibilité que ce voyage sur des terres américaines puisse nous en apprendre un petit peu sur nous-mêmes. Après cet aller aux États-Unis, peut-on faire un retour sur nous-mêmes et en tirer quelques conclusions sur la façon dont nous vivons aujourd'hui notre identité, notre héritage spirituel et son avenir éventuel?
J'en sais rien. Moi, ce qui me frappe, moi, le monde que je connais, parce que c'est le monde dans lequel j'ai été baptisé, c'est le monde catholique, moi, ce qui me frappe, c'est l'ignorance presque totale des fondements de la foi. Les catholiques, quand on les interroge, ils croient n'importe quoi. Ils croient aussi bien à la métempsychose, ils croient enfin, des tas de choses comme ça, qu'on leur a jamais appris, mais qu'ils croient tout seuls, si j'ose dire. C'est très frappant. Je ne sais pas où. Et puis quand même, on est passé de ma jeunesse où il y avait quand même quelque chose comme 60 000 prêtres en France, à maintenant où il n'y en a plus que 9 000. Bon, ce n'est pas très grave parce que le troupeau a diminué dans les mêmes proportions, si vous voulez. Dans ma jeunesse, je pense qu'il y avait à peu près. Tous les Français étaient presque baptisés. Maintenant, on ne sait pas combien de Français sont baptisés. Mais enfin, ils allaient à la messe à 40%, maintenant ils vont à la messe à 2-3%. Ouais, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas.
Est-ce que ce n'est pas une des composantes, finalement? Lorsqu'on observe les États-Unis, on peut être choqué, y compris d'ailleurs en lisant votre livre, par le côté un petit peu, effectivement, comme vous le disiez vous-même, un peu basique de la façon de se définir, notamment par rapport aux autres, par des jugements parfois un petit peu hâtifs sur de leur part. Toutefois, est-ce que finalement, derrière cette forme d'affirmation un peu simple, il n'y a pas une formidable vitalité? Est-ce que finalement, toute cette complexité et cette distance que nous avons par rapport à nous-mêmes, n'est-ce pas l'un des symptômes de l'immense désarroi qui se manifeste aujourd'hui
en
dans
France,
notre pays?
Oui, la France me paraît un pays beaucoup moins sain que l'Amérique, ça c'est vrai. J'ai vécu 3 ans dans ce pays. Attention, je ne suis pas un américanolâtre. Je suis revenu en France quand même, j'aurais pu rester en Amérique. Je suis revenu en France. Mais enfin, la France me paraît en proie à des tourments que ne connaissent pas les Américains. Oui, ça c'est sûr. Mais ils en ont d'autres, les Américains. Enfin, quand même, dans l'ensemble. En tout cas, je ne marche pas dans la calomnie française des États-Unis, comme je ne marche pas dans la calomnie française des Italiens, des Espagnols, des Belges. On nous calomnie aussi. Alors dans ce cas-là, mais nous calomnions.
L'idéal peut-être serait que nous cessions de calomnier les autres pour retrouver simplement la fierté de nous-mêmes, car finalement, cette calomnie des autres n'est pas forcément le signe que nous nous aimons beaucoup, mais probablement plutôt le signe que nous nous aimons pas tant que ça.
Mais oui, mais c'est ça qui est extraordinaire quand même. Moi, je suis un vieux monsieur, et j'ai connu le patriotisme automatique de la guerre, si vous voulez, ou de l'après-guerre. Et ça, maintenant, ça, on n'ose pas le dire, on n'ose rien dire. On est pétiniste, on est antisémite, on est n'importe quoi. Si on ose dire du bien de la France.
On est très vite beaucoup de choses.
C'est ça. On est très vite beaucoup de choses.
Alain Besançon, je vous remercie beaucoup de cette escapade outre-Atlantique.
C'était un plaisir pour moi.
J'incite nos auditeurs à la prolonger en se procurant le livre d'Alain Besançon, Le protestantisme américain, de Calvin à Billy Graham. C'est publié aux éditions de Fallois. Et comme la fin de notre émission vient de le démontrer, je pense, il s'agira d'aller à la rencontre de l'autre pour aussi se découvrir à travers lui et de réfléchir de façon plus globale à la façon dont le fait religieux peut être envisagé à la surface du globe, chez nous, et au-delà, aux problèmes plus actuel de définition que nous pouvons avoir en France, en Europe et en Occident de nos identités respectives et de leur avenir. Merci d'avoir été à l'écoute de Canal Academy et à la semaine prochaine. Merci Alain Besançon.
Mais c'est moi qui vous remercie.